Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Si le terme de citoyen du monde est souvent galvaudé, on peut dire qu'il correspond pourtant plutôt bien à Katka Garcia. De mère tchèque, de père espagnol, avec des origines juives et russes, elle vit à l'heure actuelle en Irlande où elle enseigne l'espagnol. De cette combinaison de cultures, elle n'a pu faire qu'un atout. Katka Garcia, arrière-petite-fille du célèbre peintre Arnulfo Alfons Mucha, est également chanteuse. Après un premier groupe au nom gaélique de Duna Doras, elle se produit aujourd'hui avec son groupe Garcia. Au répertoire de Katka Garcia, des chants séfarades, des ballades irlandaises en anglais ou en gaélique, mais aussi quelques compositions propres. D'ailleurs, un nouvel album est en préparation qui devrait sortir à l'automne. Rencontre aujourd'hui avec Katka Garcia.
Mon père est le fils d'un officier de l'armée républicaine en Espagne pendant la guerre civile en Espagne. Après la guerre, mon grand-père était exilé à Moscou et il a fait la connaissance de ma grand-mère. Ils se sont mariés et après la guerre, ils sont venus à Prague. Ils se sont installés à Prague. Et mon père est né à Prague, il a grandi à Prague. Et après la mort de Franco en Espagne, sa famille, lui aussi, ont rentré en Espagne.
Alors, c'est assez original hein, parce que quand même, j'ai tendance à croire, en tout cas qu'en République tchèque, il y a moins comme ça de mélange aussi exotique. Bon, enfin, il y en a, hein, vous en êtes la preuve, mais il y en a peut-être moins, disons, que par exemple en France ou dans d'autres pays. Disons, voilà, c'est une combinaison de cultures assez originale. Alors, je vais quand même rappeler simplement que votre mère, Yarmila Mokhapotkova, les auditeurs de Radio Prague la connaissent. Radio Prague l'avait interviewée il y a quelques mois pour son exposition de bijoux, d'objets inspirés de l'œuvre de Alfons Mucha. Alfons Mucha qui est donc votre arrière-grand-père, donc qui était le grand-père de votre mère, hein, puisqu'elle est la fille de Jiří Mucha, l'écrivain.
Oui, c'est ça, c'est correct. Je me rappelle que dès mon enfance, il y avait toujours des affiches de Mucha. J'étais consciente que l'art de Mucha a toujours fait partie de notre famille. Par exemple, quand je regarde un film au cinéma, voilà, et il y a un intérieur avec une affiche Mucha, c'est ça que me surprennent beaucoup.
Alors je disais en effet un mélange très exotique, voilà, vous êtes tchèque, espagnol, des origines russes également, et vous vivez à l'heure actuelle en Irlande, vous êtes prof. Alors simplement un petit peu pour poser le tableau, qu'est-ce que vous enseignez? Vous enseignez le tchèque?
J'enseigne l'espagnol parce que je suis hispaniste. Quand je suis allée en Irlande, j'ai trouvé un travail à Trinity College à Dublin, dans le département des études hispaniques.
Alors en plus, c'est parfait pour vous finalement parce que vous combinez beaucoup d'affinités pour votre propre création, puisque vous êtes chanteuse. Alors, vous avez un éventail très large d'intérêts puisque vous vous intéressez à la fois au chant séfarade, mais également au chant gaélique, irlandais. Justement, comment vous sont venues ces affinités?
Avec la musique irlandaise, ça vient un peu de famille parce que quand j'habitais à Barcelone, mon père avait des amis qui étaient écossais et irlandais. Et un jour, je me rappelle que j'étais à la maison, il a porté une cassette avec des chansons irlandaises et écossaises. Il m'a dit, oh, je pense que tu vas aimer ça. J'ai adoré les chansons dès le premier moment.
Et après, c'était des chansons traditionnelles?
Traditionnelles. Et après, quand nous sommes venus à Prague, j'avais cette cassette. Et pour moi, cette cassette symbolisait, je sais pas quoi, mon père, ma vie à Barcelone. J'ai écouté obsessivement la cassette. J'ai appris les chansons.
Par cœur?
par cœur.
Sans comprendre le gaélique, l'irlandais.
Sans comprendre même l'anglais, parce qu'il y avait, des mots anglais que je cherchais dans le dictionnaire et j'ai spéculé comment ça se peut écrire, comment je pouvais trouver le mot. Et après, la musique séfarade, c'est une question un peu différente, parce que dans mes études, j'étais très intéressée à la culture, surtout la langue des Juifs séfarades. Et pendant mes recherches pour ma thèse de maîtrise et après pour mon doctorat, j'ai trouvé plusieurs compositions et j'ai fait la connaissance de gens qui chantent les chansons séfarades. C'était plutôt un intérêt de recherche, mais maintenant ça fait part de mon propre répertoire, parce que j'aime beaucoup la langue et j'aime la culture. C'est une passion que j'ai. Pate al elpasa ki prime duna sa filha l'ancia. Alors rappelez-nous, ou rappelez plutôt aux auditeurs qui ne sauraient pas exactement en gros quelle époque ces chants séfarades. Il y a plusieurs théories concernant la datation de ces chansons, mais on peut dire, je crois, que la langue de ces chansons, c'est essentiellement le castillan, le vieux castillan avec des influences turques, françaises. Il y a toute une série d'influences linguistiques, mais la musique, certaines chansons sont dérivées des anciennes ballades castillanes ou espagnoles. Il y a un groupe de chansons qui sont plus modernes, qui sont composées, je crois, les dernières décades du siècle 19 et les premières décades du siècle 20, grâce aux influences françaises, de la chanson française, italienne. Alors c'est tout un syncrétisme musical.
Ça veut dire donc que ces chants juifs séfarades, en gros, s'étalent finalement depuis les temps, on va dire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, disons jusqu'au XXe siècle à coup sûr.
Oui, il y a des ballades dont on peut tracer les origines dans la tradition péninsulaire espagnole, andalouse, castillane.
Et est-ce qu'elle a été influencée, par exemple, justement, par la période musulmane orientale de l'Espagne?
Pendant les Juifs vivaient en Espagne, dans la péninsule ibérique, certainement il devait y avoir des influences parmi les Juifs, les musulmans et les chrétiens, culturellement et aussi dans la sphère de la musique. Quand les Juifs étaient expulsés de l'Espagne en 1492, il y avait des milliards d'émigrés qui se sont établis dans l'Empire ottoman. Et dans l'Empire ottoman, la musique turque, les instruments que les Ottomans utilisaient, ont influencé la musique des Juifs séfarades, la pression musicale que les Juifs séfarades apportent avec eux d'Espagne.
Donc on disait que vous viviez à Dublin et que vous rentrez faire vos concerts ou chanter justement des chants gaéliques ou séfarades en République tchèque. Est-ce que vous chantez justement en gaélique quand vous êtes en Irlande? Et si oui, comment est-ce que réagissent les Irlandais?
La plupart des chansons que je chante sont en anglais, mais il y a des chansons qui sont en gaélique. Et en fait, avec mon groupe Garcia, ici à Prague, je chante en gaélique aussi. Ils sont très surpris parce que pas tous les Irlandais peuvent parler ou chanter en gaélique. Il y a peu de personnes qui sont compétentes en gaélique et en anglais aussi. Alors c'est toujours un peu surprenant pour eux, mais ils sont contents.
Est-ce que vous avez l'impression que le gaélique se perd en Irlande, justement, que c'est plus les vieilles générations qui parlent et que les jeunes un peu moins?
Il y a une renaissance maintenant en intérêt langue irlandaise, parce que je pense que c'était quand le premier État libre irlandais a été fondé en 1921. Les élites politiques et culturelles avaient cette idée que ça serait un État indépendant de la Grande-Bretagne, aussi pas seulement politiquement, mais aussi linguistiquement. Dans la Constitution d'Irlande, la langue irlandaise, gaélique, la première langue d'État. C'est pour ça que tous les documents officiels, tous les inscriptions publiques doivent être en première place en irlandais et après en anglais. L'irlandais est obligatoire. Les examens en langue irlandaise sont obligatoires pour le baccalauréat, mais la plupart des Irlandais ne sont pas bilingues. Mais maintenant les nouvelles générations ont plus d'intérêt pour la langue irlandaise. Alors, c'est cool.
J'ai juste terminé par une dernière question. C'est une question linguistique, puisque vous êtes vous-même vous avez étudié beaucoup de langues, puisque vous parlez le français. D'une certaine manière, vous étudiez aussi le gaélique, puisque vous êtes obligé de le chanter. Vous parlez espagnol, évidemment. Vous parlez tchèque, vous parlez anglais. Peut-être d'autres langues encore que je ne sais pas. En quelle langue rêvez-vous? Et quel est votre... En tchèque? En espagnol?
Le rêve dépend du pays où je me trouve. Parce que quand je suis en République tchèque, je rêve en tchèque. Quand je suis en Espagne, après une semaine, je commence à rêver en espagnol. En Irlande, c'est parfois en anglais, parfois en tchèque. Mais je pense certainement dans la langue du pays où je me trouve. Je pensais jusqu'à il y a 4 mois, je pensais que j'étais complètement bilingue en espagnol et en tchèque, mais j'ai eu un accident. Ce sont des situations très, très curieuses. J'ai eu un accident, j'ai tombé de mon vélo, je me suis cassé mon cou. Et quand j'étais à l'hôpital en attendant
Les médecins,
les urgences, j'ai commencé à perdre ou oublier les autres langues. La première langue, c'était l'anglais. Je comprenais pas ce que les gens disaient parce que j'étais sous le choc. Après, j'ai reçu un coup de téléphone de mon collègue du travail en espagnol. Je comprenais tout, mais je me rappelais pas des mots espagnols. Et la dernière langue, ça qui est resté vraiment, c'était le tchèque. Alors j'ai pensé, oui, bien sûr, c'est le tchèque. La langue la plus profonde, c'est le tchèque.
C'est la fin de cette émission culturelle. Cet entretien avec Katka Garcia est une rediffusion du 23 mai 2010. Tout de suite, la suite du programme, et la suite du programme sur Radio Prague, c'est le tchèque du bout de la langue. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume.